Claude, on parle ce matin de musique.
La musique qui vous en coûte, petit commerçant qui égayait votre boutique de notes, organisateur de kermesse ou de fête village, qui, pour votre fond sonore, devait payer redevance à la SACEM, Société des auteurs-compositeurs, dont le siège se trouve à Neuilly et dont le chiffre d'affaires est milliardaire, et dans le courrier Picard, le contraste fait grincer. Ainsi, Xavier Gros, qui a organisé un concert rock pour amener des adultes handicapés en Australie, n'a pas digéré les 135 euros qu'il a détournés de sa recette. Quand on voit l'immeuble de la SACEM et que cette société tape les petits comme nous, c'est rageant. Et de cette rage, un député fait proposition de loi, Jean-Philippe Tanguy, figure du Rassemblement National, qui veut exonérer des droits SACEM les communes de moins de 2000 habitants, les associations à but non lucratif, les écoles et aussi les cérémonies funéraires. Cette idée, dit Tanguy, lui a été suggérée par Marine Le Pen. Tanguy compare la SACEM aux fermiers généraux de l'ancien régime. Et ainsi, dans un grand journal local, regardez le paysage politique, la dialectique que l'on sculpte, la droite, les droits SACEM, combien de votes ? Sur le site du Monde également, lisez ce paysage qui nous emprisonnera peut-être. C'est d'abord un article du correspondant régional du Monde en Mittelöuropa, Jean-Baptiste Chastan, qui décrit comment le Premier ministre hongrois illibéral Viktor Orban, dans l'opposition puis au pouvoir, a mis en place un réseau de médias dévoué à sa cause, plus occupé à dénigrer les adversaires politiques qu'à chercher de l'information. Les fake news seraient le pain quotidien d'une grande partie des Hongrois, dit notre confrère, et la France de Monsieur Bolloré, il le cite, selon lui, ne serait pas immunisé contre cette évolution. C'est ensuite, dans Le Monde toujours, une chercheuse allemande, Catherine Kinzelbach, qui explique comment les libertés universitaires cèdent du terrain sur cette planète. En 2006, un terrien sur deux dans le monde vivait dans une zone de liberté académique, désormais un sur trois. Cette liberté se définit simplement. Les universitaires sont-ils libres de faire de la recherche et de la pédagogie? Peuvent-ils contribuer au débat public sans craindre ou subir des conséquences négatives? Quel est le degré d'autonomie des universités? Catherine Kinzelbach a mis en place un observatoire, des statistiques, un modèle. Elle dit que les sciences dures ne sont pas moins menacées que les sciences sociales. Elle constate que l'absence de liberté n'empêche pas une recherche puissante, la preuve par la Chine. Sentez-vous le monde changer ?
On parle aussi de deux matchs de foot.
Où le glorieux Raphaël Varane n'a pas été sans reproche. Un France-Allemagne en 2014 en Coupe du Monde, où il perd son duel face à Hummel, qui nous élimine. Et un match de Ligue des Champions avec le Real Madrid contre Manchester City en 2020, où ses deux erreurs individuelles coûtent deux buts aux siens. Et s'il raconte Varane et l'équipe deux parmi les trois pires matchs de sa carrière, c'est qu'avant ses rencontres, à chaque fois, il avait subi un choc, une commotion cérébrale, deux ballons dans la tête qu'il avait laissé fatigué, chaos, perturbé, absent à lui-même. Je me disais « réveille-toi », j'avais presque envie de me mettre des claques. Pendant le match, je n'arrivais pas à me concentrer. Ce n'est que cette saison que Varane a fait le lien entre ses absences et le danger qu'il avait couru, le danger qu'à reprendre après une commotion non résorbée peut vous tuer aussi bien. Varane souhaite qu'on épargne désormais aux enfants le jeu de tête. Il conseille à son propre fils de ne pas y aller. Vous lisez dans l'équipe une conscience qui s'éveille juste en avant de son sport. Le Monde, encore lui, se souvient d'un héros, Georges Valeret. Une piscine à Paris porte son nom. Médaillé de bronze aux 100 mètres d'eau des Jeux de 48 à Londres, où il s'était présenté affaibli par les restrictions alimentaires. Il était le plus spectaculaire d'une famille de poissons, des Bretons installés au Maroc, alors protectorat français. En 42, quand les Alliés avaient conquis l'Afrique du Nord vichiste, Georges, âgé de 15 ans, avait sauvé la vie de dizaines de marins français tombés de leur navire touché et qui ne savaient pas nager. En 1950, en pleine séance de battement de pied, Valeret sentit ses jambes se raidir et devenir lourdes. Ce fut le premier signe d'une maladie des reins qui, en 4 ans, aurait raison de lui. La fragilité des colosses ne nous laisse pas en paix, mais il en est temps des fragilités. Lisez dans le Populaire du Centre le beau portrait d'une femme qui est artiste et autiste, Émilie Langlais, qui n'a découvert qu'il y a 3 ans le nom de son rapport au monde, mais qui savait depuis longtemps que ses créations, des commodes de style Louis XV en carton qui l'ont rendu célèbre et qu'on expose à l'Opéra de Limoges, étaient un prolongement d'elle-même et le moyen de ne pas mourir. Dans Ouest France, lisez une joueuse de clarinette dont le concerto de Mozart a déterminé l'existence, mais qui un jour, déprimée, affaiblie par un chagrin d'amour, a perdu le souffle trahi par un pneumothorax. Elle a appris à rejouer dans la technique de la musique yiddish, où dit-on, on chante dans l'instrument autant que l'on ventile. C'est bon à savoir.
Et on parle enfin rapidement, Claude, d'électricité.
Qui, pas plus que la musique, Nicolas, n'est un flux de gratuit, mais des malins entrepreneurs clandestins que raconte Le Parisien se promettent de dégonfler nos factures en faisant bugger nos compteurs Linky. C'est illégal, c'est dangereux. Qu'en aurait-il dit le président Pompidou, qui n'aimait pas qu'on embête les Français, morts il y a 50 ans aujourd'hui, et pour qui la montagne nous emmène à Montboudif, où il naquit, dans le Cantal, où poussent les jonquilles. Superbe article. Dans Le Monde toujours à l'honneur ce matin, j'en termine. Lisez l'histoire annulée d'un fantasme masculin. La photo d'une jeune Suédoise prénommée Lena, nue de corps et d'épaule, ornée d'un bibi et d'un boa, playmate de Playboy en novembre 1972, dont le portrait scanné redécoupé était devenu l'image test fétiche de la recherche en traitement d'image, l'informatique. Oh, elle en aura fait fantasmer, glousser les jeunes mâles devant leurs écrans, elle en aura agacé des jeunes femmes entrant en informatique pendant plus de 50 ans, mais la planète change. Depuis hier, l'Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens, grande société savante, n'accepte plus les travaux ou la playmate figure. Tu ne glousseras plus, boomer.
Merci Claude pour cette revue de presse.